Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Aujourd'hui, par exemple, on va parler d'une fête foraine, mais une fête foraine d'art contemporain. Il y aura évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage. Et dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé. Gros lundi, qui a gagné hier soir? La finale de L'Amour est dans le Pré ou le retour des Inconnus avec 63 comédiens sur TF1? Réponse dans 40 secondes avec Louise Bernard. Notre info média. Autour de ce nouveau métier, agent d'influenceur, il n'y a pas que Magali Berda qui fait parler d'elle. Voici Gallo Diallo, 32 ans seulement, cité parmi les personnalités qui comptent par le magazine Forbes et invité à ce titre à la Maison Blanche. Gallo Diallo est français, il ne se définit pas tout à fait comme agent d'influenceur, mais comme agent de créateur de contenu, voire comme agent éthique. Quelle différence? On va lui demander évidemment. Nos invités ensuite, le cinéaste et militant également Cyril Dion, qui ne cesse d'alerter depuis des années sur le changement climatique, notamment avec son documentaire Demain, plus d'un million d'entrées en salle, un César est sorti dans 30 pays. Il est à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle et il nous présente son nouveau doc en trois parties, Un monde nouveau, à voir sur Arte. Enfin, une star, le comédien Gad Elmaleh, en parle de son nouveau film, le plus personnel assurément, Reste un peu, film qui sort demain, presque un docu-fiction dans lequel il joue avec ses parents, sa sœur, des rabbins et des prêtres, puisqu'il raconte son plus beau coup de foudre, la Vierge Marie. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
La suite de l'altercation entre Cyril Hanouna et le député Louis Boyard. Deux plaintes vont être déposées. Y aura-t-il bientôt du sport en direct sur Netflix? Et puis autre question, pourquoi allez-vous voir et entendre des athlètes de parasport à la télévision et à la radio toute la semaine? Et puis on terminera avec le retour médiatique et artistique d'un artiste français.
Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium.
Bon bah, je réponds à votre question du sommaire. Ouais. C'est L'Amour est dans le Pré hein, qui l'a emporté hier. C'était le dernier bilan de la saison. On a donc découvert ce qui est arrivé à Jean et Laurence. Voilà, je ne spoile pas pour ceux qui veulent faire le replay. 4 millions de téléspectateurs, 20% de part d'audience hier soir. Deuxième, CTF1 avec le retour des Inconnus. Alors la fiction n'a pas eu un succès d'estime sur les réseaux sociaux, hein, ça a été très décrié, mais en audience c'est plutôt correct, hein, 3 140 000 téléspectateurs hier soir, 16,5% de part d'audience en moyenne sur les deux parties. Et puis troisième, c'est France 3 avec Les Rivières Pourpres, 2 100 000 téléspectateurs, 9,6% de part d'audience. À noter que la série de France 2, Diane de Poitiers, accuse une grosse baisse, hein, 1 920 000 téléspectateurs hier soir contre 2 800 000 la semaine dernière, donc c'est près d'un million de téléspectateurs en moins, 900 000 téléspectateurs en moins par rapport à la semaine dernière.
En même temps, il y avait Les Inconnus et il y avait la finale.
Le journal des médias.
Et il y avait la finale de L'Amour est dans le Pré.
Le lundi, c'est toujours une grosse soirée.
Grosse, grosse bataille le lundi. Le journal des médias maintenant avec les suites de l'altercation entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, le député. Tous les deux vont porter plainte.
Oui, le premier à l'avoir annoncé, c'est le député, hein, Louis Boyard. C'était hier lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Une plainte pour injure publique envers une personne chargée d'une mission de service public.
Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Or, c'est justement le problème. Sur TPMP, il est devenu moins grave d'enfreindre la loi que de critiquer Bolloré. Cette impunité et les méthodes qui vont avec doivent cesser. C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte.
L'altercation entre le député et l'animateur, pour rappel, a eu lieu jeudi soir hein, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Sur C8, Louis Boyard avait reproché, je cite, aux 5 personnes les plus riches de France d'appauvrir l'Afrique, notamment Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne, ce qui avait conduit à des échanges houleux et à des insultes de Cyril Hanouna. Il avait traité le député de merde, d'abruti, de bouffon, de tocard. Louis Boyard, lui, s'était étonné de ne pas avoir le droit de parler librement de Vincent Bolloré sur la chaîne. Il a répété hier, d'ailleurs, vouloir l'ouverture d'une commission d'enquête relative à la concentration des médias, plus spécifiquement sur les financements de l'Empire Bolloré. Quelques heures plus tard, Cyril Hanouna riposte. Il consacre toute son émission à la violente altercation de jeudi dernier. Il annonce à son tour porter plainte, mais lui pour diffamation, car au cours de ces échanges houleux, Louis Boyard avait accusé l'animateur de faire monter le racisme, je cite, d'avoir fait son buzz sur Zemmour. Il avait aussi affirmé que lorsqu'il était chroniqueur de l'émission, il avait eu des consignes pour tenir certains propos, d'où cette plainte pour diffamation.
Vous connaissez notre sincérité dans l'émission. Ça, on ne pourra jamais nous l'enlever, notre sincérité. Et Louis Boyard est un garçon qui n'est pas sincère. Et pour moi, ça, c'est la pire des choses. C'est un menteur. Et je vous dis, il s'est joué de vous. Et le public ne s'est pas trompé, d'ailleurs, puisqu'il l'a hué et lui a demandé de sortir. Et il était extrêmement violent sur le plateau. Et Louis Boyard n'en sortira pas grandi de cette affaire. Et sachez que nous aussi, on va prendre des mesures et on va attaquer pour ce qu'il a pu dire, diffamation et toute la diffamation qu'il a eue à notre égard.
Ouais, pour cette émission spéciale, l'audience était au rendez-vous hein, puisque la dernière partie de l'émission a dépassé cette fois encore les 2 millions de téléspectateurs.
Y aura-t-il bientôt du sport en direct sur Netflix ?
Eh bien, la plateforme y songerait sérieusement, d'après le Wall Street Journal. Mais le journal américain ajoute que Netflix ne veut pas non plus casser sa tirelire. Le géant du streaming aurait donc fait une offre pour obtenir les droits du tennis ATP dans plusieurs pays, dont la France. Mais avant d'abandonner, pour raisons financières, même chose l'an dernier avec les droits d'une compétition de surf, la World Surf League. Netflix aurait aussi tenté d'acheter les droits des compétitions féminines de tennis britannique et des championnats de cyclisme, toujours selon le Wall Street Journal. On est donc quand même loin de l'ambition de la plateforme concurrente d'Amazon Prime, Amazon Prime Video, hein, qui a beaucoup investi dans le sport, on en a parlé. Hein. En France, elle détient notamment les droits de 80% des matchs de Ligue 1 au détriment de Canal+, et les droits des sessions de nuit de Roland-Garros, qui avaient permis... Souvenez-vous, il y a quelques mois, de diffuser la plus belle rencontre du tournoi, le match Nadal-Djokovic, ce qui avait d'ailleurs beaucoup agacé France Télévisions.
Et on avait beaucoup parlé dans cette émission. On continue à parler de sport, mais de parasport. Cette semaine, de nombreux médias le mettent à l'honneur.
Vous allez voir des reportages ou entendre des invités en lien avec le sport et le handicap sur plusieurs chaînes de télévision. On entendra la radio aussi, notamment sur Europe 1. Tout cela dans le cadre d'une opération lancée par l'ARCOM, c'est ex-CSA. Jouons ensemble. C'est la deuxième édition de cette opération qui veut plus de visibilité du parasport dans les médias, car au-delà du parasport, c'est en fait le handicap tout court qui doit avoir plus de place dans nos médias audiovisuels. C'est ce que le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre, a expliqué à Jean-François Pérez. Il était l'invité d'Europe 1 Sport jeudi soir.
On doit veiller à la juste représentation de la diversité de la société française dans les médias. Nos compatriotes qui sont en situation de handicap représentent, on n'a pas toujours ce chiffre en tête, 12 millions de la population. C'est 12 millions de Français qui sont en situation de handicap. Et la représentation de cette population à la télévision, notamment, est aujourd'hui très faible. Et donc l'idée, c'est de mener des opérations en liaison avec les médias pour améliorer cette situation. La confiance dans les médias, ça passe par une juste représentation. Il faut que chacun se retrouve dans les médias.
Voilà, extrait d'Europe 1 Sport qui est diffusé tous les soirs de 20h à 23h.
Et on termine ce journal avec Michel Polnareff qui fait son grand retour artistique et médiatique.
Vous l'avez peut-être remarqué, des interviews pour Paris Match, pour Le Parisien, pour le Journal du Dimanche, des émissions de télévision aussi. Alors ça, ce sera bientôt. Il sera sur le plateau de la Star Academy pour la finale dans 2 semaines. Il a aussi enregistré une émission pour France 3, la fête de la chanson française. Elle sera diffusée plus tard, le 29 novembre. C'est un gros retour médiatique donc pour le chanteur. Qui n'est pas un hasard. Hein. Il sort un album vendredi, des reprises piano-voix de ses plus grands tubes. Voici un extrait de Lettre à France.
Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas.
Et vous pourrez peut-être l'entendre sur scène, car il annonce aussi une tournée en France en 2023, du 24 mai au 8 juillet. La dernière date de 2016, hein, et elle s'était terminée plus tôt que prévu à cause de problèmes de santé.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Et les audiences du mardi soir, évidemment. Dans un instant, notre info média du jour, on sera avec Gallo Diallo. Qui est-il ? C'est le créateur d'une agence de développement artistique, d'accompagnement d'artistes sur Internet. Avec lui, une créatrice de contenu, un nouveau métier qui prouve qu'on peut être influenceur, vertueux et engagé. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
On va parler d'un nouveau métier, agent d'influenceur. On l'a vu avec Magali Berda, présidente de Sean Evans, la plus grande agence d'influenceurs en France, qui est en ce moment dans la tourmente. Une loi est à l'étude, portée par le député Aurélien Taché, pour définir le périmètre, les droits et les devoirs de cette profession. Notre invité, lui, ne se définit pas comme agent d'influenceur, mais comme un agent de créateur de contenu et même un agent éthique. Quelle différence ? Les créateurs de contenu ne se vendent pas sur leur image, mais sur les projets qu'ils défendent et les messages qu'ils ont à faire passer. Un agent éthique, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est. On peut déjà un peu spoiler pour dire que c'est d'avoir une cause à défendre. Parmi les personnalités qui comptent pour 2022 par le magazine Forbes, cet agent d'un genre nouveau s'appelle Gallo Diallo. À 32 ans, il représente des artistes de tous horizons dans le monde entier jusqu'à la Maison Blanche. Pour nous expliquer les raisons de son succès, le plus simple était de l'inviter. Il est au micro de Culture Média ce matin. Gallo Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créateur de l'agence Smile Conseil. Vous gérez une vingtaine de créateurs de contenu.
Exactement.
Vous êtes venu avec l'un de vos talents. Elle s'appelle Sally, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice de contenu, notamment de la série Motherland, et vous avez aussi créé votre propre centre de conférences depuis avril, la Sally Academy. On va en parler. D'abord, Gallo Diallo, je disais, en juillet, le magazine Forbes vous consacrait un long article, très élogieux évidemment. Il vous présentait comme l'homme derrière la vague des nouvelles étoiles d'Internet, à quoi j'ajoute, toujours en citant Forbes, incontournable dans le marché de la creator economy et entrepreneur très avisé. Quelle différence faites-vous entre un influenceur, avant de parler de votre métier à vous, entre un influenceur et un créateur de contenu?
Aujourd'hui, quand on parle influenceur, on parle forcément influenceur télé-réalité. Mmh. Il y a une grande distinction, parce que moi, j'ai des créateurs, je représente des créateurs de contenu qui, eux, ont une passion, donc maîtrisent un art, que ce soit l'humour, la danse, la pâtisserie, etc. Et vont créer du contenu autour de cet art. Et grâce à ça, ils vont fédérer une communauté. Et moi, je vais être là pour essayer de construire un plan de carrière et de pérenniser tout ça.
Vous voulez dire que les influenceurs représentent eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'ils sont, et les créateurs de contenu représentent ce qu'ils font.
Exactement. On va dire que les influenceurs dits télé-réalité, ils émergent par la télé, par des télé-réalités. Et ensuite, ils monétisent ça via en filmant leur vie au quotidien et par les phrases, par tout ce qui peut se passer autour.
Par des phrases, comme vous dites, ouais. Pas toujours heureuse.
Ouais, exactement. Et alors qu'un créateur de contenu, déjà, c'est souvent natif digital. Mmh. Ils sont nés sur les réseaux sociaux. Ils ont évolué en créant du contenu de qualité. Et je fais vraiment la distinction entre les deux parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui parler des influenceurs. Mais le monde de l'influence est tellement large. On peut avoir de tout type, on peut avoir des gamers, des gens qui sont spécialisés dans le jeu vidéo, on peut avoir des gens qui sont spécialisés dans de l'analyse juridique comme a pu le faire Sally, on peut avoir des danseurs, on peut avoir des humoristes et c'est vrai que c'est un nouveau monde pour beaucoup et c'est important de comprendre l'écosystème pour ne pas mettre tout le monde dans le même sac.
En préparant une émission consacrée aux agents d'influenceurs, je ne pensais pas entendre le terme analyse juridique. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sally, puisqu'elle est avec nous et que vous l'avez choisie?
Sally, ancienne juriste, du coup, créatrice de contenu, qui a commencé sur YouTube en faisant des analyses de faits, on va dire sociétaux, d'actualité. Et voilà, elle est vraiment incroyable, très intelligente, très profonde. Et elle a un penchant pour la mode et ça se ressent aujourd'hui à voir comment elle allait.
Alors, comment on passe de l'analyse juridique à la mode, Sally?
Très bonne question. Je pense que c'est ma versatilité qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et le fait de ne pas justement rentrer dans une boîte et expérimenter en fait tous les aspects de ma personnalité, à savoir effectivement mon background juridique, parce qu'effectivement je suis une ancienne juriste, donc je faisais beaucoup de vidéos de vulgarisation du droit, et aussi après tout ce qui est ma féminité, que ce soit des vidéos sur les cheveux afro par exemple, que ce soit des vidéos sur la mode, que ce soit des vidéos sur plein de choses en fait, tout simplement, mais toujours en gardant un aspect plus profond.
Je le précise, ça ne s'entend pas à la radio, vous êtes d'origine africaine.
Exactement, ma mère est marocaine et mon père est camerounais, donc c'est aussi le fait de participer à la représentation des femmes noires sur les réseaux sociaux.
Un mot de votre série Motherland, même plus qu'un mot d'ailleurs, racontez-nous cette série, des guests assez impressionnants.
Oui, franchement, oui. Là, par exemple, pour l'épisode au Congo, on a réussi à avoir le prix Nobel de la
paix. Qu'est-ce que ça raconte?
Alors, le principe de Motherland, c'est une série qui a pour but d'apporter un regard nouveau, en fait, sur la manière dont on filme l'Afrique habituellement. C'est-à-dire que la plupart des documentaires qu'on a en Europe, c'est souvent très misérabiliste. Et c'est une vision que j'avais, avec laquelle j'avais du mal à composer. Et donc, avec plein d'autres créateurs de contenu, hein, je ne suis pas la seule à le faire, on a cette nouvelle envie d'apporter un visage plus dynamique, plus positif sur les réseaux sociaux, sur l'Afrique. Et donc moi, comme je suis sur YouTube à la base, j'ai créé tout un format, donc une vraie série, des épisodes de 30 minutes à 1 heure où on va dans différents pays d'Afrique et on apporte donc ce regard plus agréable.
C'est une série documentaire ou c'est fictionné ou c'est un mélange des deux?
Pas du tout.
Je dis ça parce qu'on va savoir Gad Elmaleh tout à l'heure. Il raconte le début de sa conversion et il mélange entre fiction et réalité. Vous-même, tout est réel.
C'est une série documentaire, vraiment, c'est une série documentaire.
Motherland, pourquoi? La terre-mère?
Exactement, la terre-mère, donc l'Afrique.
Elle est très modeste, hein, mais aujourd'hui, elle est du coup productrice de son propre contenu. Et là, on ne parle pas de contenu court, de une minute en faisant une petite danse sur Internet.
Ouais.
C'est vraiment documenté, recherché, analysé, produit, bien écrit. Et je vous invite vraiment à regarder tous les Motherland qui sont déjà sortis, donc Motherland Sénégal, Motherland Côte d'Ivoire. C'est vraiment incroyable.
Gallo Diallo, vous avez créé l'agence Smile Conseil en 2016. Dans quel but, quelle était l'idée de départ ?
L'idée de départ, c'était de représenter des créateurs de contenu issus des quartiers populaires et des territoires éloignés de la campagne. Enfin, je pense à Alexandre Gigaud, ouais. Je fais une petite dédicace. Et en fait, c'était pour qu'il y ait plus de représentativité dans le secteur de l'audiovisuel en général, dans le tout petit écran. Mmh. Et c'était ça la promesse, c'était de pouvoir les représenter, pouvoir construire des plans de carrière, pouvoir trouver des modèles économiques sains et pouvoir aussi faire en sorte qu'ils puissent en même temps s'épanouir artistiquement, mais aussi socialement, en portant des messages qui sont forts.
Vous êtes autodidacte ?
C'est ça.
Hein ? Quel a été votre parcours, Gallo Diallo ?
Mon parcours, c'était, on va dire que j'étais pas un élève très studieux étant au collège et au lycée. Après,
je vais poser la même question que j'ai posée à Sally parce que vous parlez de minorité. Vous êtes de quelle origine ?
Je suis d'origine sénégalaise. Voilà, enfant de fils d'ouvrier et de dame de ménage. C'est une fierté de le dire parce que aujourd'hui on dit souvent qu'il faut 7 générations pour changer un petit peu de passer d'une classe ouvrière, on va dire, à même une classe moyenne. Et entre guillemets, les enfants de la diaspora sont en train de déjouer toutes ces statistiques en entreprenant, en ayant aussi des postes à responsabilité dans des sociétés. Donc c'est aussi un message que j'aime faire passer. Mais au-delà de ça, voilà, j'avais un parcours pas très studieux et ensuite je me suis repris en main après un voyage au Sénégal où j'ai compris un petit peu l'histoire de ma famille. J'ai vraiment compris l'importance de faire les choses, de se battre pour les autres, de porter des convictions fortes. Et en revenant en France, j'étais vraiment déterminé. J'ai repris les études, bac, DUT, école de commerce et directement par la suite, j'ai entrepris.
Alors, quand on vous demande quelle est votre source d'inspiration, Gallo Diallo répond Victor Newman. Et alors, là, je dois dire que j'étais complètement bluffé parce que je ne savais pas qui c'était. C'est l'homme d'affaires de la série Les Feux de l'amour. Là non plus, je ne pensais pas citer Les Feux de l'amour sérieux, dans une interview. Racontez-nous.
En étant jeune, je n'avais pas forcément de modèle de réussite autour de moi. Et si ce n'est mes parents, parce que j'estime quand même qu'ils ont vraiment réussi, du coup, à nous éduquer, à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Mais mis à part ça, en termes de figure qui m'inspirait hors famille, j'avais personne. Et du coup, je suis parti chercher ça dans une série.
Ouais, j'ai vu, mais ça aurait pu être JR dans Dallas. Ça aurait pu être...
Mais parce que
je
ma mère,
pas,
en fait.
Les Feux de l'amour.
Ma mère regardait Les Feux de l'amour, ça m'a été imposé. Ouais. Et ensuite, j'ai adhéré. Voilà. J'ai adhéré, j'ai kiffé le personnage charismatique, chef d'entreprise. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire plus tard.
Heureusement que votre modèle, c'était pas Swellen. Ouais. Je me tourne vers vous. Sally, comment vous êtes rencontrés ? Qui a contacté l'autre ? Comment ça s'est passé ?
Ça s'est fait en fait un peu mutuellement. Hein. Ouais. Franchement, ça s'est fait très naturellement.
Vous connaissiez à la base ?
Non, même pas. En fait,
j'ai kiffé son travail. Ouais, non, mais je l'avais déjà vu son contenu sur les réseaux sociaux que je trouvais très quali. Mmh. Ça changeait du coup d'avoir une ancienne juriste qui fait des vidéos YouTube. Mmh. C'est vraiment le type de profil que j'admire. Et surtout, elle a la casquette entrepreneuse du coup. Et pour moi, c'était important de pouvoir représenter des talents qui proposent autre chose.
Donc, c'est vous qui l'avez contacté. D'un mot, pourquoi vous avez dit oui ?
Vision, loyauté et compréhension l'un de l'autre.
Quel est le modèle économique de ces influenceurs d'un genre nouveau ? Gallo Diallo et Sally vont-ils repartir bras dessus, bras dessous ? Il faut rester dans Culture Média pour comprendre pourquoi cette allusion qui n'a strictement rien à faire là et pourtant qui est à sa place. A tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Sally, créatrice de contenu, Gallo Diallo, il dirige l'agence Smile Conseil, qui est une agence de, non pas d'influenceurs, mais de créateurs de contenu, et dont vous dites, Gallo Diallo, que vous êtes, en parlant de votre travail, un agent éthique. Qu'est-ce que cela signifie ? Par rapport à quoi vous vous définissez ?
C'est surtout le marché qui me définit comme tel. Je ne me suis pas défini un matin agent éthique. Mais pour moi, un agent éthique, c'est un agent conscient de ce qui se passe, conscient... qu'il y a la limite de la légalité, mais il y a aussi une limite qui est l'immoralité. Et cette morale, elle évolue avec le temps. Il y a 20 ans, 30 ans, on pouvait aller dans un zoo et ça ne posait pas problème. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus problématique au vu de tout le message que ça fait passer. Et c'est de pouvoir faire évoluer les créateurs de contenu au même niveau que la société évolue aussi, et de faire attention aux enjeux que nous avons aujourd'hui. Et c'est là où c'est important de rester ouvert d'esprit et de s'éduquer sur chaque sujet. Et on aura toujours plus engagé que soi, mais le plus important, c'est d'être ouvert à améliorer, à s'améliorer et à impacter positivement les communautés et notre société.
Sans citer personne, qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux que jamais vous ne pourrez faire ou demander à vos talents de faire ? Genre vendre l'eau du bain. Des choses comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez vu qui vous ont fait bondir ? On va citer personne. Mais qu'est-ce que vous avez vu qui vous a fait bondir ? Vous avez dit jamais de ça chez moi.
On est tellement en fait aux antipodes, si vous voulez. Il y a des choses qu'on découvre en même temps que vous. Parce qu'Internet, c'est tellement large. Mais même nous, on tombe sur des choses. On pète les plombs. Quand, on parlait de la story du vagin. Pour avoir un vagin d'une fille de 12 ans, mais c'est extrêmement choquant.
C'est, moi, une influenceuse qui disait qu'elle venait de faire une opération et que désormais elle avait le vagin de mémoire d'une fille de 13 ans. Quand elle soit 13 ou 12, c'est pareil.
Non, mais ça nous choque. Mais autant que n'importe qui, en fait. C'est juste qu'on n'est pas du tout dans le même monde. On n'a rien à voir. On a vraiment ces deux mondes qui sont totalement différents. Mais au-delà de ça, il y a des choses aussi qu'on voit passer, comme on parlait du dropshipping. Mm-hmm. Moi, ce qui me dérange le plus...
Je vais dire un mot sur le dropshipping. Ouais. Ce sont des gens qui vous vendent une montre, par exemple, ou un bracelet, pour 50 ou 100 euros. Et en fait, ils l'ont acheté sur un site chinois à 2 euros. Et avec leur notoriété, vous achetez 50 euros, quelque chose qui en vaut 2.
Tu sais que c'est même pas ça le pire dans l'histoire.
C'est quoi
tout
le
monde a abordé ce sujet-là à travers ce prisme-là. Voilà. Mais en fait, c'est souvent des gens qui n'ont même pas les stocks. Donc, je m'improvise entrepreneur, je crée un site internet, vitrine. Et lorsque tu commandes sur mon site, je commande sur le site du fournisseur directement. Donc, je n'ai pas de stock. Donc, je n'ai aucun contrôle sur le fait que tu vas recevoir ton produit ou pas. Et c'est ça, en fait, la folie. C'est de se dire qu'on est en capacité de faire de la promotion à des gens qui vont arnaquer d'autres. Mais parfois, c'est des économies. C'est des gens qui ont épargné chaque mois pour pouvoir s'offrir un produit, etc. Et c'est là où c'est vraiment outrant.
Je rebondis sur le double sens du mot économie. Quel est votre modèle économique ? Comment gagnez-vous de l'argent l'un et l'autre ? Sally ?
Alors, on monétise avec soit des collaborations avec des marques, soit en créant nous-mêmes notre propre économie. Donc, par exemple, effectivement, il y a cette casquette entrepreneur que j'ai désormais. Donc, là aussi, des revenus dans les entreprises que je crée ou dans lesquelles je peux investir.
Mais qu'est-ce qui rapporte de l'argent ?
Tout, absolument tout. En fait, c'est du 360. Hein. Franchement, c'est du 360 degrés. Aujourd'hui, je pense justement que les créateurs essayent de diversifier un maximum de leurs revenus pour pas justement...
Vous, c'est des entreprises qui vous donnent de l'argent.
En fait, il y a trois lignes de revenus.
Gallo-dialo.
Voilà, on va dire qu'il y a trois lignes de revenus. Le premier levier, c'est la monétisation des vues. Donc, lorsque je poste une vidéo sur YouTube, vous voyez, il y a des publicités avant, au milieu, pendant. Donc ça, c'est un modèle pour gagner de l'argent pour un créateur de contenu.
Sur YouTube, on dit que c'est 1 euro par 1000 vues, en gros, schématiquement.
Ça dépend du CPM.
Voilà. C'est très schématique.
Voilà, on va dire ça comme ça.
Je pense pour les gens qui sont novices.
Voilà. Donc, ça, c'est la première ligne de revenus. La deuxième ligne de revenus, c'est de brand content. Donc, je vais, on va prendre le groupe LVMH qui sort. Il y a un produit qui sort et on va créer un contenu autour de cette sortie de produit. Donc voilà, c'est une collaboration artistique qu'on va poster sur les réseaux sociaux et ça, on va le monétiser. Et ensuite, la troisième ligne de revenus, c'est de monter une entreprise. En gros, si Sally demain est fan de produits cosmétiques et qu'elle décidait du coup de lancer sa propre gamme de produits cosmétiques, et bah du coup elle devient entrepreneuse, elle lance son entreprise, elle embauche des gens, elle crée de l'emploi et elle lance ses propres produits et sur lesquels elle va gagner de l'argent.
Si vous choisissez exprès les cosmétiques, est-ce que c'est pas justement là où les problèmes ont commencé à survenir avec les produits cosmétiques ? Est-ce que vous faites des cosmétiques par exemple ? Question à tous les deux.
Non, pas encore.
Mais en fait tout est une question de sérieux et à qui on s'associe pour pouvoir le faire. On s'improvise pas expert dans chaque domaine et je pense qu'il faut savoir aller chercher à s'associer aux plus sérieux, aux acteurs les plus sérieux dans chaque domaine et venir nous avec notre force de frappe les amplifier pour créer du succès.
Gallo-dialo, quand on pense à votre métier, on pense évidemment à Magali Berda, parce que c'est la papesse, comme on dit, de ce métier-là. La présidente de Sean Evans, c'est la plus grande agente d'influenceurs en France. Elle est en ce moment dans la tourmente. Elle est en train de perdre son contrat avec Banijay à la suite de toutes sortes d'affaires trop longues à résumer ici. Une polémique également avec Booba, contre lequel elle a porté plainte, mais également un reportage accablant de compléments d'enquête. Que vous inspire son cas ?
Encore une fois, on n'est pas dans le même monde. Lorsque tout à l'heure, vous, en introduction, vous disiez qu'elle est là la plus grosse agence d'influence, il faut bien préciser, de télé-réalité, puisque l'influence, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, elle est dans un segment qui est la télé-réalité, avec des codes qui sont propres à eux. Et nous, je peux juste dire qu'on s'inscrit pas du tout dans cette démarche, qu'on n'est pas sur le même modèle économique et qu'on ne représente pas les mêmes types de personnalités sur les réseaux sociaux. On a juste un exemple là avec Sally, qui réellement crée du contenu, qui crée des choses, qui a une histoire et qui porte un engagement.
Il y a une loi qui est à l'étude, portée par le député Aurélien Taché, qu'on avait reçu ici à ce micro, pour définir le périmètre, les droits et les devoirs de cette profession. Est-ce que vous l'avez rencontré, Aurélien Taché ?
Pas encore. Mais par contre, j'ai rencontré Bruno Le Maire. On a fait un documentaire,
ministre de l'économie.
On a fait un documentaire autour de l'argent sur les réseaux sociaux et on l'a interviewé. C'est un documentaire qu'on a sorti sur Brutix qui est porté par Riyad et justement où on dénonçait bien avant complément d'enquête les dérives de tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Et dans ce cadre-là, on l'a interrogé pour savoir en fait quelles mesures vont être prises pour justement éradiquer tout ça.
J'ai oublié de vous demander, Sally, avant qu'on se quitte, quelle adresse pour voir ce que vous faites, votre travail ? Où est-ce qu'on vous voit ?
Sur YouTube. Donc,
ça s'appelle ?
Ça s'appelle Sally. Sally, S-A-L-L-Y.
S-A-2-L-Y.
Exactement.
Et ça suffit, c'est vous sur YouTube.
C'est ça, et la même chose sur Instagram.
Merci beaucoup Sally, merci beaucoup Gallo Diallo d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. C'était passionnant. Merci. Dans un instant, on se retrouve avec un militant, il est cinéaste, Cyril Dion. Il nous alerte depuis 15 ans sur le changement climatique. Nouveau doc qui arrive, signé par lui en trois parties, un monde nouveau. Et on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevons le militant écologiste et cinéaste Cyril Dion. On parle de son nouveau doc, Un monde nouveau à voir sur Arte ce soir. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les stratégies médiatiques. Et ce matin, vous vouliez profiter de la présence de Cyril Dion pour revenir sur un nouvel exercice auquel s'est livré Emmanuel Macron ce week-end.
Oui, un exercice de communication politique très acrobatique, Philippe, qui a consisté à répondre dans une vidéo d'une douzaine de minutes postée sur YouTube à des questions concernant l'écologie qui lui ont été adressées par les Français via les réseaux sociaux.
Donc j'ai eu plein de questions, je vous en remercie, d'interpellations plus ou moins précises et plus ou moins sympathiques.
Alors j'ai été très intéressé par cette séquence parce que j'ai trouvé que c'était en quelque sorte le Canada Dry de la communication politique. Un truc qui avait l'apparence de l'équilibre et de la modernité, mais qui, tout compte fait, n'était absolument ni l'un ni l'autre. Je vous raconte. D'abord, il faut s'intéresser à la forme. Tout seul, face caméra, c'est-à-dire dans le dispositif confortable et dénué de tout contradicteur qu'il aime tant, le président de la République a choisi les questions auxquelles il avait envie de répondre.
Alors la première question, c'est celle de Marie-Ange. Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir ?
Il a commencé par les questions pas sympas, histoire d'avoir l'air de ne pas céder à la facilité.
Ensuite, j'ai une question de Melvac sur Twitter. Comment peut-on se faire condamner pour inaction climatique tout en ayant l'audace de faire croire qu'on peut se justifier sur Twitter ?
Vlan. Toutefois, j'ai été très amusé par cette petite phrase.
Moi, j'aime bien les faits et la vérité.
Car Emmanuel Macron a réussi une performance d'une prodigieuse acrobatie. Il s'est placé lui-même dans la posture de celui qui aime les faits et la vérité, tout en tordant précisément les faits et la vérité, selon qu'il l'arrangeait ou pas. Par exemple, à la question sur la condamnation pour inaction climatique de la France, le président de la République a répondu en insistant sur les dates.
Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018.
Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'en 2015, mes enfants, il n'était pas encore président.
Et il se trouve que j'ai été élu pour la première fois en mai 2017.
Donc, vous avez compris le message, si quelqu'un est responsable, c'est pas lui, c'est François Hollande.
La condamnation pour inaction climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme.
Alors c'est tout à fait exact, en 2015, Emmanuel Macron n'était pas président de la République, mais écoutez bien la date qu'il a choisi de mettre en avant cette fois pour répondre à la question concernant l'attente de la catastrophe pour réagir.
Alors, on n'attend pas la catastrophe et on a commencé à agir. Au fond, ce à quoi on s'est engagé en 2015, ce sont les accords de Paris.
Bah, 2015, époque à laquelle il a donc décidé de rien puisqu'il n'était pas... Ensuite, il faut bien sûr s'intéresser au fond. Et là, j'ai été totalement stupéfait. effet. Car une époque où le fact-checking fait rage, où il suffit de quelques clics sur un ordinateur ou un smartphone pour vérifier une information, j'ai été sidéré par ce que j'ai entendu. Par exemple, le président de la République a affirmé ceci.
Durant le quinquennat passé 2017-2022, on a réduit deux fois plus vite nos émissions qu'on ne l'avait fait dans les cinq années passées. Deux fois plus vite.
Alors, c'est extrêmement audacieux parce qu'on partait de rien. Donc, deux fois plus que rien. Est-ce qu'on est sûr que c'est aussi spectaculaire que ce qu'il affirme? Ensuite, Emmanuel Macron a présenté un graphique, c'est son nouveau truc, sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre entre 1970 et 2022.
D'abord, vous voyez que la France, qui était le huitième émetteur, elle est sortie de ce club. On est un peu derrière. On est aujourd'hui dans la liste des 10-15 premiers émetteurs, mais on n'est pas les plus gros.
Alors, pour être précis, la France est actuellement le 12e pays le plus émetteur de carbone. Mais si elle a reculé dans le classement, ben ce n'est pas parce qu'elle a réduit ses émissions. Non, c'est parce que les autres pays, les pays émergents, se sont mis à émettre davantage.
Moi, j'aime bien les faits et la vérité.
Enfin, s'agissant des propositions formulées en 2020 lors de la Convention citoyenne pour le climat, à laquelle vous étiez, Cyril Dion, Emmanuel Macron a très subtilement expliqué ceci.
Alors sur la Convention citoyenne sur le climat, 150 propositions, on a dit oui à 146 et on avance.
C'était très subtil car ce n'est pas parce qu'il a dit oui que toutes les propositions ont été suivies des faits. Mais ça, personne ne lui a fait observer. Où l'on comprend, Philippe, que via les réseaux sociaux ou pas sur Internet comme ailleurs, ce n'est pas parce que l'illusion de la modernité et de l'équilibre est parfaite que le débat démocratique progresse pour de bon.
Merci beaucoup et à très vite.
Merci beaucoup Bruno Nanet. Cyril Dion a beaucoup souri et ri. J'imagine que cette séquence-là, vous n'avez pas échappé. Qu'en avez-vous pensé de cette séquence du président Macron ?
À peu près la même chose. Enfin que j'en parlais avec mon fils de 17 ans qui me disait « En matière de culot, il n'a aucune limite. » Et c'est à peu près ça, parce qu'effectivement, dire « Moi, j'aime les faits et la vérité » et dire après que, par exemple, la France a respecté ses objectifs climatiques en omettant quand même de dire qu'il a baissé les objectifs, c'est-à-dire que la France devait réduire de 2,3% par an. Il s'est dit « Non, c'est un peu trop, donc on va baisser à 1,5%. » Et là, bah, en baissant à 1,5 plus en ayant le Covid, ah bah, du coup, la France a tenu ses objectifs. C'est un peu genre, vous faites du saut en hauteur, vous dites, bah, je vais baisser la barre. Eh bah, dis donc, hey, regarde, j'ai passé la barre.
Bah, je me souviens, je ne sais plus quel ministre de l'éducation qui voulait avoir plus de bacheliers, il a baissé le niveau du bac. Il y a eu plus de bacheliers.
Ça marche.
CQFD.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Vous avez vu cet enchaînement?
Ben, n'empêche que la série s'appelle comme ça en hommage à la chanson de Feu Chatterton et c'est des copains et donc je les salue en plus.
Vous êtes figure planétaire de la lutte environnementale, réalisateur de ce documentaire Demain, je dis ce documentaire parce qu'il a fait plus d'1 million d'entrées en salle, ce qui est quand même une performance. Un César, il est sorti dans plus de 30 pays, vous êtes aussi à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle. Et votre actu, c'est Un monde nouveau, ce sera ce soir sur Arte à 21h, documentaire en 3 parties, résister, s'adapter, régénérer. Je vais faire le détail un peu après. Vous dressez un constat terrible des conséquences du réchauffement climatique, accablant. D'ailleurs, parfois, vous semblez accablé. Et vous avez voulu aller plus loin que ce constat. Comment avez-vous travaillé pour ce doc?
En fait, on est parti avec Thierry Robert, donc, qui a réalisé les 3 documentaires. Moi, je les ai écrits et incarnés. D'un livre que j'ai publié en 2018 qui s'appelle Le petit manuel de résistance contemporaine. Et l'idée, c'était de proposer une sorte de plan le plus élaboré possible pour savoir quoi faire face au changement climatique. C'est un peu la question qu'on m'a le plus posée dans ma vie, quoi.
Évidemment.
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est évidemment impossible d'y répondre en 2 phrases. Donc là, on y a répondu en 2h30 avec un premier volet qui est comment est-ce qu'on engage des rapports de force avec les multinationales, avec les gouvernements qui, depuis 30 ans, voire même depuis 50 ans, savent ce qui se passe mais ne font rien. Un deuxième volet sur comment est-ce qu'on s'adapte, parce que les conséquences du changement climatique sont déjà là. On a déjà vu cet été qu'on a déjà des incendies, on a déjà des sécheresses, des inondations, des canicules. Donc comment est-ce que dans les années qui viennent, on va se préparer à vivre tout ça? Et un troisième volet sur comment est-ce qu'on régénère, comment est-ce qu'on fait en sorte que, en replantant les forêts, des mangroves, des prairies marines, on aide les écosystèmes à nous aider à absorber le carbone. Mais comment est-ce qu'on invente aussi un monde nouveau? C'est-à-dire comment est-ce qu'on invente des nouveaux modèles économiques, politiques, éducatifs qui nous permettent, dans les années qui viennent, d'arrêter de dérégler le climat et de détruire la biodiversité?
Ce qui est très intéressant dans votre propos sont les solutions et ça va au-delà de mettre une brique dans sa chasse d'eau pour consommer moins d'eau. Parmi les solutions pour faire prendre conscience au monde entier du péril climatique, il y a le fait, je cite, de recourir à l'interposition, au sabotage. C'est la position, par exemple, de Andreas Malm. Il est géographe, il est maître de conférence à l'Université de Suède et il est auteur d'un livre comment saboter un pipeline, autrement dit un gazoduc, raconté.
Il dit un truc qui est malgré tout frappé au coin du bon sens, c'est-à-dire qu'il dit qu'est-ce qui est le plus violent aujourd'hui ? Est-ce que c'est de construire un pipeline ou est-ce que c'est de saboter un pipeline ? L'Agence internationale de l'énergie dit, si on veut rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement, il faut qu'il n'y ait plus aucune nouvelle infrastructure fossile à partir de maintenant, tout de suite. Donc, chaque grande entreprise minière, pétrolière, qui construit des nouvelles infrastructures, comme Total par exemple, qui va construire cet énorme pipeline en Ouganda, c'est que ce sont des bombes climatiques, que ça va avoir des conséquences dramatiques sur des populations. On a vu ce qui s'est passé au Pakistan,
mais de là,
par
le saboter,
exemple.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est le sabotage.
Ben, le saboter, encore une fois, c'est ce que dit Andreas Malm. Il dit, le problème, c'est que la violence qu'exercent ces grandes compagnies, elle est diffuse. C'est-à-dire que là, Total va construire un pipeline, et dans 5 ans, dans 10 ans, il y a des gens qui vont mourir au Pakistan, il y a des gens qui vont mourir dans tout un tas de régions du monde qui seront les plus adaptées, les plus inadaptés par exemple au changement climatique. Cette violence-là, elle n'est jamais mise en lumière. Donc est-ce que ça, c'est moins violent que d'aller démonter un tuyau ? C'est pas sûr.
Bonne question que je laisse en suspens. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis le tournage ?
Non.
Je veux dire à quoi j'ai pensé, parce qu'il doit être content. Vous avez vu qu'il y a eu deux pipelines Nord Stream en mer Baltique qui ont été sabotés fin septembre au large du Danemark ?
Ben, j'imagine qu'il doit être content, oui. Absolument.
Ce qui est très intéressant aussi, vous dites les limites de la stratégie du colibri. On disait chacun fait ce qu'il peut à son petit niveau, et en fait vous le dites, non, ça suffit pas. Dans le deuxième épisode intitulé « S'adapter » aux États-Unis, vous avez rencontré des anciens patrons millionnaires de la Silicon Valley. Un nouveau genre de survivaliste, il se prépare, il y a un ancien conseiller de Barack Obama, c'est pas n'importe qui, sont pas des illuminés. C'est ça qui m'a vraiment passionné dans cette histoire, parce que c'est à la fois du concret et des gens extrêmement cortiqués cérébralement. Les preppers, qui sont-ils ?
Bah là, c'était assez fou cette histoire. Ce type s'appelle John Ramey, donc c'était un ancien conseiller d'Obama, effectivement, et c'est un patron de la Silicon Valley, c'est un type qui est multimillionnaire, qui nous a dit, voilà, moi j'ai été à peu près au top du système politique et économique, je peux vous dire que tout le monde sait ce qui se passe, on sait ce qu'il faudrait faire, on serait capable de le faire, mais pour avoir été à peu près au top des deux systèmes, je sais qu'on ne le fera pas. Donc, je me prépare. Et il nous confiait que pour lui, 50% des patrons de la Silicon Valley se préparent eux aussi à des situations très difficiles dans l'avenir. Donc là, lui, en l'occurrence, il est allé vivre dans le Colorado, dans une maison où il a un garage rempli d'armes à feu, une cave remplie de nourriture avec des carottes déshydratées qui vont lui durer 25 ans, des rouleaux de papier toilette.
Je souris parce que j'ai vu l'extrait, l'espèce d'énorme couscoussière où il fait lui-même son eau.
Il nous explique qu'il a un filtre à eau et qu'avec tous ces filtres-là, il peut avoir de l'eau pour plusieurs décennies. Mais en même temps, ça aussi c'est intéressant, il nous dit croire qu'on va s'en sortir tout seul avec en gros des flingues et des boîtes de conserve, c'est illusoire. Il faut construire une forme d'autonomie collective sur les territoires. Et donc au-delà de voir cet exemple de ce garçon qui est quand même vraiment survivaliste, on a été voir Cuba, qui a vécu une espèce d'effondrement sur l'approvisionnement de nourriture quand l'URSS s'est désintégré. On a été voir le Cap
Cuba,
qui est passé...
Cuba, c'est extraordinaire, parce qu'ils sont comme M. Jourdain, qui font de la prose sans le savoir. Ils font du bio parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides.
Ah bah, en fait, quand l'URSS s'est désintégré, ils importaient 90% de leur nourriture de l'URSS. Mmh. Donc du jour au lendemain, comme ils n'avaient pas les moyens d'acheter des engrais et des pesticides, ils ont dû faire du bio en ville. Et il se trouve qu'ils ont réussi à nourrir quasiment toute la population avec ça.
Aujourd'hui, c'est un grand jour, et je ne plaisante pas. Nous sommes officiellement 8 milliards sur Terre. Et une des qualités de votre documentaire, c'est qu'il traite du contrôle des naissances. Exemple au Bangladesh, où montrer des femmes qui luttent contre le mariage des petites filles qu'on destine à un type dès leurs 9 ans ou 10 ans. On est tous d'accord avec ça. Mais quel rapport avec le changement climatique ?
En fait, ce que nous explique Runa Khan, donc qui a une ONG qui s'appelle Friendship, c'est qu'ils apportent des panneaux solaires dans des familles pauvres au Bangladesh. Ça permet d'avoir de la lumière, donc ça permet aux jeunes filles d'étudier. Et comme elles étudient, elles sont beaucoup moins susceptibles d'être mariées de force et d'être mariées très jeunes. Et il y a une étude qui a été publiée dans la revue Science en 2011 qui montre que si on permet à chaque jeune femme sur la planète d'aller jusqu'au bout de ses études secondaires, il y aurait jusqu'à 900 millions de personnes en moins sur la planète en 2050. Si on permet à chaque femme de disposer de son corps, c'est-à-dire de choisir si elle veut avoir un enfant ou non, il y aurait à nouveau, je crois, 1 milliard de personnes en moins d'ici à la fin du siècle. Ce qui veut dire presque 2 milliards de personnes en moins, rien qu'en permettant aux femmes d'avoir accès à des droits fondamentaux. Et il faut, et évidemment, l'idée n'est pas de dire qu'il faut donner des droits aux femmes parce que c'est bien pour le climat, parce qu'il y aurait moins de personnes sur Terre. Ce sont des droits que auxquels toutes les femmes devraient avoir accès. Mais il se trouve qu'en plus, ça a un impact sur la natalité. Et il se trouve que plus on est nombreux et plus potentiellement on peut avoir d'impact sur les écosystèmes, ce qui n'est pas une équation fidèle, hein, puisque un Américain aujourd'hui a une empreinte écologique 14 fois plus importante qu'un habitant du Bangladesh. Donc on a besoin d'être moins nombreux et d'avoir une empreinte écologique beaucoup moins importante. Mais en gros, on ne peut pas continuer à avoir une explosion démographique comme ça. En gros, entre le moment où vous êtes né et maintenant, si vous avez 80 ans, la population de la Terre a été multipliée par 4. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire.
Voilà, et c'est une des qualités de votre reportage que vous traitez d'un sujet qui est tabou souvent, qui est le contrôle des naissances.
Ben, c'est pas vraiment le contrôle des naissances, mais c'est en tout cas comment est-ce qu'on limite l'explosion démographique par l'accès à l'éducation des jeunes femmes. Mmh.
Je recevais, je ne sais plus qui avait fait un formidable reportage sur la surpêche en Afrique. Et il racontait que les ressources manquaient. À aucun moment, dans 52 minutes de sujet, il disait « Entre-temps, la population a doublé
ben ». Oui.
Et ça, c'était un sujet tabou. C'était le point aveugle de ce genre de reportage, ce qui n'est pas le cas du vôtre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cyril Dion. Pour qui aurait oublié le titre, Un monde nouveau. C'est en trois parties ce soir sur Arte, à voir évidemment quand on veut sur arte.tv.
Absolument.
Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue évidemment, c'est la deuxième heure qui arrive après les infos. Notre invité, une star, comédien, humoriste, réalisateur, Gad Elmaleh, pour son film Reste un peu. Il met en scène une véritable conversion, la sienne, au catholicisme. C'est à la limite du reportage. Et puis dans les indispensables, nouveautés musicales avec Stéphanie Loire. Et puis Frédéric Le Ternier nous emmène à la foire foraine d'art contemporain. Ça existe, il y a un parc d'attractions avec des manèges et de la barbe à papa. Peut-être Jean-Luc Lemoyne pour sa session de rattrapage. A tout de suite.